Rebelle, toujours, hein, 106.3 FM. Et bien aujourd'hui, comme tous les quatrièmes vendredis du mois, et bien c'est la Fondation Copernic qui investit l'émission Mode d'emploi. Et bien au micro aujourd'hui, Didier et Damien, et puis Ludo qui va s'occuper de la technique. Merci Ludo, puis je crois que Ludo nous fait ça un petit peu à la main levée, donc merci. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, et bien c'est celui de l'articulation entre l'écologie et le social. Sujet un petit peu difficile à débattre, et on a invité deux spécialistes de ces questions. Nous sommes pas loin maintenant de la conférence internationale sur le climat qui va se tenir à Paris en fin d'année, hein, sauf erreur de ma part. Et c'est un petit peu aussi autour de ces sujets qu'on voudrait débattre. Nous sommes paru effectivement tout à fait intéressant d'essayer de faire ce lien entre l'écologie et le social qui est pas forcément souvent fait. Alors, on est effectivement parti d'un constat, hein, qui est assez simple finalement, c'est que les dégradations qui sont faites à l'environnement renforcent souvent les inégalités, inégalités sociales, inégalités territoriales également, que ce soit d'ailleurs au niveau mondial ou en France, hein, également en Europe. Et donc on aimerait un petit peu discuter avec nos invités de ces questions autour de trois points, c'est un petit peu ça l'idée. D'abord, vérifier avec vous si les modifications en cours de l'environnement, dont on connaît maintenant malheureusement les effets, est-ce qu'elles affectent de manière à peu près identique les populations, les territoires, ou est-ce qu'on assiste malheureusement, et c'est un petit peu de ce constat, hein, qu'on part à des aggravations qui se font différemment sur le territoire et socialement. Premier point qu'on aimerait discuter avec vous. Deuxième point, néanmoins, des mesures sont prises, hein, pour lutter contre ces nuisances environnementales. Et bien, ont-elles l'effet voulu, en particulier réduire évidemment les nuisances, mais aussi réduire les inégalités dont on a parlé, dont on parlera, hein, en début d'émission. Ou parfois, sans forcément que ça soit l'effet recherché, est-ce qu'elles peuvent avoir comme effet éventuellement d'accentuer ces inégalités dont on a parlé. Et puis troisième temps de l'émission, peut-on discuter d'éventuelles propositions alternatives? Quelles sont les propositions que vous pourriez mettre en avant l'un et l'autre, puisque nous avons deux invités, on va les présenter tout de suite. Pour essayer, finalement, de réduire cette fracture qu'on voit bien apparaître. Voilà. Donc, alors, pour répondre à ces différentes questions, pour discuter de ces différents points, eh bien, on a deux invités aujourd'hui. Mathieu Agostini, qui est président de la commission écologie du Parti de Gauche. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonsoir, effectivement. Bonsoir. Et Fabrice Flippo, qui est maître de conférence en philosophie à Télécom et Management, donc qui est l'Institut des Mines, c'est ça? D'accord. Et qui est par ailleurs chercheur en philosophie à Paris 7, auteur de nombreux ouvrages, on en citera à ce stade deux, les deux derniers en tous les cas. Le premier, Nature et politique, hein, qui est paru en 2014 à la collection Amsterdam, que j'avoue ne pas connaître, mais peut-être tu pourras nous en dire quelques mots. Et puis deuxième ouvrage, Pour une philosophie politique écologiste, qui est paru aux éditions textuelles en 2014, qui est mieux connu. Ben, merci, tu viens demander les documents, on fera donc un petit peu de publicité si nécessaire. Bien, donc vous pouvez donc appeler l'émission, vous le savez, comme tous les jours, au 01 40 05 06 10, et pour intervenir si nécessaire et questionner nos invités. Par ailleurs, vous le savez, vous pouvez, comme toutes les émissions, les télécharger sur le site, à la fois le site de Mode d'emploi et sur le site de la Fondation Copernic. On vous donnera les informations pour pouvoir télécharger cette émission. Et par ailleurs, on pouvait la réécouter mercredi prochain au réveil à 7h30. Voilà. Eh bien donc, merci pour le jingle qui va bientôt pas tarder à arriver. On l'écoute. Est-ce qu'il vient? Il vient. Il va pas tarder, et s'il n'y a pas de jingle, on va passer à la suite, c'est pas dramatique. Il arrive.
Il y a peut-être un souci soucis techniques, je vous propose de...
De démarrer. On
de
va démarrer.
Démarrer.
Il y a, on attendait un jingle, on a une première chanson.
Alors, peut-être la première question hein, pour poser le débat, faire un petit état des lieux. Depuis quand, en fait, on peut acter cette prise de conscience entre environnement, enfin entre dégradation de l'environnement, politique environnementale et politique sociale, inégalité sociale. Alors, je sais pas lequel d'entre vous veut commencer l'émission. La première question.
Bon, je commence alors, donc Fabrice. On peut dire toujours.
On peut dire toujours.
Manière.
Dans quel sens ?
C'est-à-dire que si on parle des dégradations environnementales qui sont liées à l'industrialisation, et même si on regarde les dégradations environnementales qui ne sont pas liées à l'industrialisation, hein, je donne toujours un exemple qui est quand même assez célèbre, c'est Platon qui se désespère un petit peu du déboisement de l'Attique. Donc bon, on peut trouver des témoignages dans les anciens écrits hindous, on peut témoigner, enfin, il y a des exemples à profusion hein, des effets de certaines activités humaines sur l'environnement à conséquences néfastes pour une partie de la population humaine. Après, si on revient, enfin, disons, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est lié à un phénomène particulier qui est l'industrialisation et les modes de vie liés, disons, au développement. Et là, effectivement, on trouve aussi au XIXe siècle, donc avec la phase de l'industrialisation, on trouve chez Marx notamment, on trouve des, mais pas que lui du tout, hein, des préoccupations liées à la pollution de l'air, liées à la santé, liées d'autant plus que en général, les travailleurs habitent à côté des usines et que les usines polluent directement ceux qui habitent à côté. Et c'est pas loin dans des problèmes aujourd'hui que d'avoir une population dans les pays industrialisés qui sont très loin des usines. voilà, enfin, il y a des spécificités de ce type-là qui expliquent pourquoi aujourd'hui, on peut dire, d'une manière générale, c'est un problème qui a toujours eu lieu, mais il y a des spécificités aujourd'hui qui font qu'il n'est pas aisé de relier environnement avec inégalité sociale. D'autant plus que dans la question qui a été posée, je ne vais pas faire trop long, hein, mais dans la question qui a été posée, c'est les impacts différenciés, mais en plus, il y a les responsabilités différenciées dans la causalité des impacts. Et aujourd'hui, le fait est que le smicard moyen en France ou au Canada a un impact en termes de gaz à effet de serre et plus généralement d'empreinte écologique qui, à l'échelle mondiale, est déjà au-delà de ce qui est soutenable. Donc il y a toute une analyse à reprendre, expliquer pourquoi on se retrouve dans cette situation-là, trouver des passerelles entre les soucis, les questions, des préoccupations des classes populaires, pour faire simple, qui sont celles qui vont à Paris Nord, qui bouffent tous les trucs industrialisés et qui, pour certaines questions, sont assez loin de l'écologie. Puis pour d'autres questions, par contre, sont beaucoup plus près. Hein, ce que fait Paul Ariès, par exemple, autour de l'idée de sobriété des classes populaires, c'est effectivement attesté depuis très longtemps. Il y a une, pour dire comme Michéa, une common decency de la part du peuple par rapport à la consommation, par rapport, et d'ailleurs on le voit, et après je m'arrête là, on le voit au travers des efforts du marketing pour faire consommer les gens, c'est-à-dire que si on dépense des centaines de milliards, enfin je dis on, si il est dépensé des centaines de milliards dans le marketing, c'est bien parce que les gens se méfient quand même des nouveaux produits, se disent mais est-ce que c'est bon pour moi, est-ce qu'ils se posent des questions, donc il faut arriver à lever ces freins à la consommation et rendre les gens dépendants de tout un tas de cochonneries dont après il est pas évident de sortir.
D'accord. Mathieu, sur cette question donc du lien entre développement des nuisances environnementales et quel type de population touchée, c'est quelque chose qui alors là puisque tu es là tu es pas là pour le parti de gauche évidemment, mais par ailleurs tu milites au parti de gauche parce que là on a une réponse un peu bon effectivement d'un philosophe historien, on a un petit peu l'idée du développement de ces questions au niveau historique, mais aujourd'hui dans les partis politiques et disons dernièrement dans les partis politiques, cette question, est-ce qu'elle est prise en compte, comment ça se passe? Alors que ce soit parti de gauche ou ailleurs, je veux dire, peu importe. Est-ce que c'est une question qui intéresse le milieu politique?
Oui, oui. Bah, d'abord, le bonsoir à toutes et à tous. Et puis, le même constat un peu que Fabrice. C'est-à-dire que tu commençais par dire, depuis toujours, quelque part, on retrouve des exemples de prise en compte, et de compréhension des relations entre l'activité humaine, on va dire, et ses conséquences sur l'environnement plus ou moins direct. Fabrice a donné des exemples. On pourrait parler de populations mayas qui disparaissent pratiquement soudainement pour construire des cités à 600 km de distance parce que, et l'explication qui est donnée aujourd'hui assez communément est qu'ils se sont retrouvés face à une raréfaction extrêmement rapide des ressources sur lesquelles ils s'appuyaient. Et bon, évidemment, c'est des compréhensions qui sont totalement liées au développement de la pensée scientifique et à la compréhension que on va avoir des phénomènes environnementaux. Et Fabrice citait l'exemple de Marx. Pour moi, c'est important parce que on a souvent tendance à dire, et pour de très bonnes raisons, que puis ça me permet de répondre à la question, pour de très bonnes raisons, que les communistes sont productivistes, que le communisme est essentiellement productiviste. En réalité, chez Marx et chez Engels, on va trouver une compréhension extrêmement affûtée, relativement aux connaissances scientifiques de l'époque, évidemment, hein, des liens entre l'activité industrielle, le développement du capitalisme industriel et de ses conséquences sur l'environnement. Ils vont s'appuyer sur les travaux de Liebig et de ses analyses de l'épuisement par l'agriculture intensive capitaliste et de l'épuisement des conséquences en matière d'épuisement de la fertilité de ces sols pour faire le lien immédiat entre l'agriculture productiviste intensive capitaliste etc et les conséquences directes que ça peut avoir sur les ruptures en réalité avec les équilibres des écosystèmes. Pourquoi je fais cette introduction? Parce que en rapport à votre question, moi j'analyse les choses de la façon suivante, c'est que je pense qu'il y a un mouvement de la compréhension, on va dire, des partis politiques au cours de l'histoire de la question écologique, mais que du point de vue de la gauche socialiste, communiste, etc., il y a en réalité un trou noir dans la compréhension de ces phénomènes-là, qui se situe, pour le dire très vite, au moment de la période stalinienne, de l'Union soviétique. Les principaux penseurs qui ont perpétué cette connaissance et cette compréhension à la suite de Marx sont en réalité dans l'opposition au stalinisme. Et donc, de fait, les premiers endroits où la répression stalinienne va être forte. Et donc, on va avoir une espèce de trou noir. Et donc, du coup, c'est important parce que par la suite, il va y avoir quelque part un peu une double réaction à cela, c'est que de fait le socialisme et la pensée socialiste et les partis politiques qui vont suivre de ça seront essentiellement productivistes, puisque c'est la victoire, la grande victoire, la grande conséquence de la vision de Staline. Et la deuxième, c'est que toute la pensée écologiste qui va se développer, notamment au cours du XXe siècle, sera à l'extérieur de cette pensée socialiste, ou même en opposition, en rupture, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, quelque part, on assiste, et c'est quelque chose que je trouve intéressant, un peu à un renouveau de la pensée du point de vue du socialisme et de la question écologique, et une tentative, on en reparlera après, mais d'essayer de réconcilier en réalité ces deux pensées là et donc du coup aujourd'hui on a un champ politique, on le verra, hein, où on a à la fois des partis, enfin différentes écologies. On va avoir des écologies très libérales, des écologies extrêmement réactionnaires qu'on fait le Front National aujourd'hui, et puis un pôle d'écologie de l'émancipation autour de la gauche et de la gauche radicale.
Alors peut-être avant de parler de ce renouveau, hein, qu'on abordera tout à l'heure en, en troisième partie d'émission. Je vais être un peu plus terre à terre aujourd'hui, pour revenir un peu sur cet état des lieux, hein, sur comment se caractérisent aujourd'hui, en France ou ailleurs, hein, les inégalités environnementales et le lien avec les inégalités sociales.
Ouais, je vais revenir un petit peu quand même là-dessus parce que j'ai pas tout à fait la même explication.
Ouais. premier débat.
Parce que bon, la faute à Staline, certes, mais je crois que le problème est plus profond que ça, enfin plus profond si on veut. Disons, pour faire très très simple, je pense que le socialisme, le communisme, hein, mon opinion là-dessus, c'est que le socialisme est, disons, consubstantiel à une époque, alors que le communisme est éternel, disons. Hein. C'est-à-dire que le communisme a toujours été un enjeu, alors que le socialisme, c'est quelque chose qui est susceptible d'être réarrangé. Et, bon, mais le socialisme et l'espérance de communisme qui était derrière, a tout misé sur un mouvement social. Et ce mouvement social est
le prolétariat industriel.
Voilà, est limité. Mmh. Et en plus, maintenant, il a été sujet, limité. Donc, on a dit les besoins qui sont revendiqués par cette classe-là sont les besoins universels. Tout le débat autour de, disons, des années 60 à 90, qu'on retrouve bien chez Gors, notamment, est de dire oui, mais en fait, le prolétariat ne manifestement ne prend pas en compte les revendications écologistes, notamment. Mais il n'y avait pas que ça, mais ça aussi. Et Gors s'interroge, d'abord dit que c'est un problème du marxisme, puis finit par dire que c'est un problème de la classe ouvrière. Bon, moi, mon interprétation, c'est voilà, la raison profonde, c'est que Marx s'appuie, enfin, ce que dit Marx sur le capitalisme, tout ça, c'est très pertinent, sauf que, en creux, il y a l'idée, enfin, c'est du point de vue de la classe ouvrière, et donc, le levier, il est là. Aujourd'hui, on a à penser une situation dans laquelle il y a une pluralité de mouvements sociaux, et chacun, disons, moi, pour moi, c'est des questions de situation. C'est-à-dire que le prolétariat, dans la situation qui est la sienne, il faut pas lui demander l'impossible. Simplement. Donc il y a d'autres mouvements qui se sont créés ailleurs, parce qu'il y a des leviers plus importants à d'autres endroits de la société, notamment l'écologisme se base beaucoup sur une critique de la consommation. Critiquer la consommation depuis l'usine, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Donc les mouvements se sont créés en dehors. Alors, bon, ça c'est un premier point, d'où tout un tas d'incompréhensions d'ailleurs, de la vulgate marxiste par rapport à l'écologisme, parce que se situant du côté de la consommation... Quelque part, la consommation, c'est ce qui est mis en valeur tout le temps par le capitalisme, le libéralisme, l'économie néoclassique, c'est la souveraineté du consommateur. Bien, on est d'accord que c'est pas du tout la réalité. Simplement, c'est, sur le plan formel, c'est ce qu'ils mettent en valeur. Donc, du coup, il y a beaucoup d'incompréhension, de dialogue de sourds, je dirais. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin Nature et politique, c'est d'essayer de rendre un petit peu justice à chacun. Et je pense que le principal problème, enfin, on ne peut sortir de cette situation-là qu'en revenant aux forces sociales. Aux forces sociales de transformation et en voyant ce que chacune peut apporter, disons, au combat et ce qu'on voit, donc les alliances rouges et vertes. Alors, on voit effectivement, hein, un écologisme qui est beaucoup plus de transformation sociale, on va dire. Et puis, de la même façon, que le syndicalisme, il y a un syndicalisme de la feuille de paix, ben il y a un syndicalisme de l'environnement. Maintenant, il ne faut pas balayer tout ça tout de suite en disant « Oui, mais c'est des gens, ils sont FN sûrement. » Non, il faut des années un peu plus fines quand même des mouvements sociaux pour essayer de trouver où sont les leviers. Moi, je reste marxiste de ce point
de vue-là. La question de Damien est pertinente
là.
Néanmoins, parce qu'y compris, elle est pertinente dans le sens de cette réconciliation entre, d'un côté, l'écologie et de l'autre côté, le mouvement social.
Ça m'étonne toujours quand même que le marxisme oublie ses bases. Ses bases, c'est le mouvement social, c'est pas les constructions éthérées. Quoi, hein.
Mais justement, la question que pose Damien, et je crois qu'elle peut permettre justement de faire un peu ce lien entre les deux, c'est est-ce que les transformations auxquelles on assiste aujourd'hui, est-ce qu'elles affectent différemment les populations, que ce soit au niveau mondial ou que ce soit au niveau européen ou français. À partir du moment où elles affectent soit différemment, soit indifféremment les populations, évidemment, on voit bien que le lien entre ce que tu appelais le rouge et le vert peut se faire ou se fait plus difficilement. Et alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet impact des transformations environnementales sur les populations et les territoires aussi, parce que c'est les deux, hein, qui sont touchés.
Pour moi, il y a un double constat. D'abord, c'est que on est dans une situation où effectivement ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés, mais que, y compris, les crises écologiques, les crises environnementales, renforcent les inégalités. Donc il y a un double mouvement. En réalité, il y a une double peine de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Parce que c'est vrai que ça, on est parti de ce constat-là. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive un petit peu à tout petit peu plus loin que le constat et puis essayer de l'illustrer.
Pour moi, le constat, il va encore plus loin. C'est-à-dire qu'en réalité, ces inégalités, elles existent entre les pays occidentaux et les pays du Sud. Elles existent, y compris au sein des sociétés occidentales, mmh. et ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais, au sein même des sociétés des pays du Sud. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans un rapport, en réalité, de domination qui font qu'à chacune des échelles, ce sont toujours les plus pauvres qui sont les premiers touchés, et encore une fois, avec une spirale de renforcement de ces inégalités. Du point de vue de la relation des pays du Nord au Sud, on va pas tous les cités, mais déjà, premier d'entre eux, on va dire, si tant est qu'il y en ait un qui soit plus important que d'autres, la question de la crise climatique, qui accentue considérablement les effets de la pauvreté. Je rappelle quand même que en 2013, on avait des estimations autour de 22 millions de réfugiés climatiques, pas en prévision, en 2013. D'accord ? Donc de gens qui se déplacent du fait des conséquences directes de la montée des eaux, de l'acidification des terres, de l'avancée des déserts, etc., etc., etc. Donc ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que le réchauffement climatique a déjà démarré, et en réalité, il est sensible, et il a des conséquences directes, d'ores et déjà, sur les populations des pays du Sud.
Je t'arrête très bien, ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est cette évolution climatique. Tu disais montée des eaux, tu disais désertification. Quelle forme ça prend concrètement ? Quelle forme ça prend ?
Ça prend toutes ces formes-là, c'est-à-dire que en fonction des phénomènes locaux, on va avoir notamment des baisses extrêmement importantes du fait de l'acidification des sols, par exemple, de la productivité des terres agricoles, qui peut être absolument colossal, qui va de 30, 40, 50% de baisse de rendement et donc de capacité des peuples locaux à se nourrir, hein, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Dans les négociations climatiques aujourd'hui, les dirigeants africains disent vous êtes en train de discuter de choses qui nous touchent déjà directement. Mmh. Nous avons déjà dû déplacer un certain nombre de villages du fait de la montée des eaux. D'accord.
J'ai en tête des exemples en particulier en Inde, non, on commence à dire qu'en Inde, on va avoir des zones qui vont être inondées et on va avoir des déplacements de population tout à fait importants.
Disons que il faut se rendre compte. Enfin, je pense qu'on a du mal à se rendre compte ici parce qu'on est tellement, on a tellement de, disons, de manières d'amortir les chocs, nous, que dans un pays tempéré, on a des marchés de céréales qui sont gigantesques. Donc, si ça marche pas à un endroit, ça marche à un autre. Bon, enfin, on a tellement de moyens pour, on a l'irrigation, on a vraiment du mal à se représenter la situation de l'agriculteur qui était déjà dans les zones où il y avait des problèmes de faim et d'alimentation et qui se retrouve confronté à des aléas supplémentaires. Hein. Quand on parle d'augmentation de température, faut voir que à Delhi, par exemple, hein, dans la zone de Delhi, entre avril et juillet, et tous les jours, il fait déjà 47-48 degrés déjà.
Ce qui n'était pas le cas.
C'est la température, disons, c'est un petit peu plus que la température normale, mais il faut voir que quand vous êtes à 45 degrés.
2 degrés, c'est énorme.
2 degrés, vous le sentez passer. Voilà, c'est ça, disons. Hein, c'est que nous, on ne se rend pas compte qu'ils sont déjà dans des situations de fragilité extrême. C'était déjà le cas, je veux dire. Hein. Et donc, c'est une espèce de. Voilà, on lui plante un couteau dans le dos en plus, puis après, on regarde s'il va réussir à toujours récolter ses plantations. Bon,
on disait que, y compris dans les pays, alors pour le coup plus tempérés, européens, on a des phénomènes identiques qui se passent. Ou est-ce que c'est où est-ce que ça se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est l'accès à l'eau? Est-ce que c'est l'accès où est-ce qu'on trouve des phénomènes de où l'impact de l'évolution environnementale joue sur le bien-être des populations? Est-ce que c'est différent? Ça se pose comment?
Le climat, malheureusement, on le sent pas tellement, quoi. C'est la date des vendanges, c'est des choses comme ça. Bon,
c'est les inondations,
ouais, oui, voilà, pour l'instant. Les pollueurs ne sont malheureusement pas ceux qui prennent les plus gros impacts parce que, à cause de ces différences de sensibilité, ces différences de localisation.
Et ce sont souvent les plus résilients aussi.
Donc on va parler, par exemple, plutôt d'injustice environnementale. environnementale du type, ou de justice environnementale du type, c'est les pauvres qui habitent à côté des autoroutes ou à côté des lieux de déchets ou qui cumulent les nuisances. Mais voilà, oui, là on peut avoir effectivement des, disons, des synergies intéressantes entre inégalité environnementale et inégalité sociale. Mais sur le climat, c'est quand même plus difficile. C'est voilà. Alors après, il y a d'autres types de mobilisation ou d'autres formes de questions environnementales qu'on voit avec les gaz de schiste, par exemple, qui ressemblent là pour le coup un peu plus à ce qui peut se passer dans les pays du Sud, à savoir que c'est des questions de remise en cause de mode de vie. C'est pas simplement une petite nuisance comme ça. Bon, on perd 6 mois, 1 an d'espérance de vie. C'est du jour au lendemain, il y a la possibilité de voir le paysage complètement bouleversé. Les gaz de schiste en Ardèche, c'est, ils changent complètement, quoi. Dans 10 ans, l'Ardèche, elle ressemble plus du tout à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, on le voit en Inde. Ça, effectivement, hein, j'aime bien le petit modèle. Il y a un historien de l'environnement indien qui s'appelle Ramachandra Guha. Et il a fait un petit modèle que je trouve assez bien et avec deux classes. Il dit qu'en fait, il y a deux classes, une lutte des classes entre deux classes. C'est la classe des omnivores qui habitent dans les villes, qui mangent de tout, n'importe où et sans voir d'où ça vient. Et de l'autre côté, c'est les peuples des écosystèmes. Donc, c'est ceux qui vivent là où sont extraites les ressources et qui sont, dont le mode de vie est bouleversé par les émissaires des omnivores qui viennent pour extraire les ressources.
C'est exactement le cas avec les gaz de schiste. C'est-à-dire qu'en réalité, même s'il y a en plus des modifications qui vont un peu au-delà de la modification des paysages, ce qui est déjà un premier problème, mais on va se retrouver avec les pollutions de l'eau, les pollutions des sols qui vont avoir des conséquences directes sur la santé. Je pense qu'il faudra, approfondir aussi
l'Ardèche change
aussi
métier,
cette question,
quoi.
Mais on va se retrouver avec une augmentation de la ponction, de la prédation, voire de la vampirisation des Occidentaux sur les ressources fossiles, donc des émissions de gaz à effet de serre et donc une accélération des conséquences sur les pays du Sud. Parce que c'est quand même ça le schéma. Faut pas oublier que si on ponctionne la totalité des ressources hydrocarbures dites conventionnelles, donc hors gaz de schiste, huile de schiste, etc., on est déjà sur des scénarios de réchauffement qui vont au-delà de 3 degrés Celsius. Si on rajoute à ça les réserves non conventionnelles gaz de schiste et autres, on est sur des scénarios de réchauffement climatique qui vont beaucoup plus loin, qui vont à 4, 5 degrés Celsius, avec les incertitudes en plus qui pèsent à partir de ce type de réchauffement, de ce niveau de réchauffement-là, avec les incertitudes qui pèsent sur l'emballement climatique qu'il peut y avoir.
Alors 6 degrés, il faut quand même le dire à la radio, 6 degrés de réchauffement climatique, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, 6 degrés de moins, c'est une glaciation et la banquise qui va jusqu'à Brest. 120 mètres d'eau de moins dans les mers. C'est ça une glaciation. Mmh. Et ici, c'est le climat sibérien.
Plus de degrés Celsius, ça, c'est dans les pays du Sud, des pénuries alimentaires majeures. Hein, c'est dans les zones d'Asie du Sud-Est, c'est 80% potentiel de fertilité en moins.
On pourra peut-être continuer après.
Je propose d'approfondir tous ces sujets, et notamment peut-être la thématique de l'accès à l'énergie, hein, puisque on a commencé un peu à l'évoquer, après une première pause musicale.
Dans la main, avec le dernier lémurien. La main, dans la main, avec le dernier pangolin. La main, dans la main, avec le dernier vaurien.
On avait commencé à aborder la notion de gaz de schiste. Je vous propose peut-être de poursuivre sur justement cette thématique qui est l'accès à l'énergie. Et je pense que la thématique de la lutte contre la précarité énergétique peut être un bon thème pour poursuivre cette émission qui fait le lien entre développement durable justement et inégalité sociale. Mathieu, pour commencer.
Oui, je pense qu'on est en réalité, par exemple dans les pays occidentaux, bon, face à ce phénomène dit de précarité énergétique. Donc à mon sens, on est un petit peu plus loin que l'accumulation d'inconvénients. Enfin, je sais plus quel était le terme utilisé par Fabrice tout à l'heure. Pour moi, on est dans une situation qui est complètement folle, c'est-à-dire qu'on a 22% des ménages qui sont dans une situation qui est absolument catastrophique du point de vue énergétique. On parle là de 6 millions de ménages, donc en réalité de pratiquement 11 millions de personnes en France qui sont dans une situation. Alors évidemment, elle est graduée graduelles, mais qui vont se retrouver face à des coupures d'électricité en plein hiver parce que impossibilité de payer la facture, qui vont se retrouver avec des coupures de gaz, d'eau, etc. Donc on est également, du fait des contraintes du système, dans nos pays occidentaux, face à une question d'accès aux ressources, quand bien même elles nous paraissent et elles nous sont vendues comme, puisque c'est le système qui veut ça, Fabrice le disait très bien tout à l'heure, comme étant infini et
inépuisable,
et totalement accessible. Ce risque de précarité énergétique, il est extrêmement important, et du coup on est là face à la rareté qui est créée en réalité par le système, c'est-à-dire que sans relancer le débat sur la situation ou l'intérêt de la population dit prolétariat de tout à l'heure, mais le fait est qu'aujourd'hui, y compris dans nos sociétés occidentales, la question de l'accès à l'énergie est posée d'abord aux populations les plus précaires. C'est d'autant plus important qu'en réalité, ça pointe la question de la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un débat, notamment avec les écolos libéraux, pour le dire vite, qui vise à pointer les responsabilités individuelles. Est-ce qu'on est responsable des émissions de gaz à effet de serre dans les pays occidentaux lorsque l'on prend sa voiture et qu'on est obligé de prendre sa voiture pour aller au travail? Est-ce qu'on est responsable des émissions de gaz à effet de serre quand on chauffe assez formellement l'extérieur parce que notre bâtiment est une passoire énergétique, qu'on n'a pas ou les moyens de la rénover, ou alors qu'on n'est absolument pas propriétaire et que ça n'est pas de notre fait? Donc je pense qu'il y a là une question qui est absolument centrale, c'est la question de la responsabilité. Et à mon sens, on est bien dans une responsabilité du système de production et de la façon dont le système capitaliste est aujourd'hui organisé, bien plus que dans une responsabilité individuelle.
Sur cette question de la responsabilité, je dirais que il y a une difficulté à arriver à politiser la consommation, c'est-à-dire arriver à avoir un discours collectif sur la consommation qui soit pas simplement je veux dire qu'ils soient en prise, mais ça c'est un problème plus général de la gauche, gauche de gauche ou gauche pas de gauche, d'avoir une certaine prise avec un certain électorat, donc d'avoir une certaine prise avec les situations des gens, et donc quand il y a un discours, que ce discours renvoie à des réalités réellement vécues des gens, et pas simplement des analyses comme ça où on essaye de raccrocher... des analyses partagées entre syndicats, associations écolo, et du coup ça peut faire un petit peu factice. Mais il y a une difficulté à politiser cette consommation, avec d'un côté
il y a une difficulté générale à politiser la question de l'écologie de fait, non?
Oui, Fabrice, il faut que tu précises, parce que moi je vois pas ce qu'il y a de factice dans 200 000 coupures d'électricité par an. Enfin là on parle bien de réalité concrète, 800 000 personnes en France qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle de restrictions volontaires de chauffage, c'est-à-dire que pour boucler les fins de mois, ils sont concrètement dans une situation où ils sont obligés d'arbitrer entre différentes dépenses qui sont contraintes, payer la cantine pour les gamins, payer la facture des sens de la voiture.
Ce que je comprenais de l'intervention de Fabrice, c'était plus...
Sans doute, mais ce que je voulais dire, alors le premier point, c'était arriver à reprendre les revendications, à s'inscrire dans les priorités des gens, et il n'est pas si évident que ça que la priorité des gens, ce soit l'isolation comme réponse, malheureusement. J'aimerais bien.
La baisse de la facture énergétique, par contre, oui, peut-être.
Oui, voilà, mais par contre, ils peuvent espérer, je fais une analyse qui cherche pas c'est une analyse, simplement. Après, on voit ce qu'on fait quand on est, disons, de gauche, mais à mon avis, ils peuvent être pour l'instant assez tentés par non pas l'isolation, mais la libéralisation du marché de l'énergie, de telle manière à faire baisser. Donc c'est ça que je veux dire, c'est assez difficile de faire passer ce genre de message, parce que quand d'un côté on a 30 000 euros d'investissement, les gens, déjà, ils ont pas conceptualisé vraiment le problème comme ça. Donc là on retombe sur ce problème de politisation de l'écologie. Je pense que la majorité des gens aujourd'hui se rend bien compte que l'énergie, ça va... le pétrole, c'est un peu fini et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, il y a une analphabétisation générale qui est assez, problématique pour construire un discours politique dessus, parce que comment construire un discours politique sur un truc que les gens ne maîtrisent pas? C'est assez difficile.
Tout à l'heure, en démarrant l'émission, on évoquait la question des mesures qui ont pu être prises en matière justement de lien entre écologie et social. Bon, là, on parle du problème énergétique, on parle de la précarité énergétique, on parle, un des remèdes, évidemment, c'est une meilleure isolation des bâtiments. Mais moi, j'ai une interrogation quand même, parce que, je suis pas un spécialiste de la question comme vous l'êtes, mais on voit bien quand même que lorsqu'on prend en compte cette question, qu'on améliore l'habitat, de fait, on augmente le coût ou de l'achat ou du loyer. Et là, on a un phénomène qui est vrai, enfin, qui est celui un peu de la rénovation urbaine, de manière générale, hein, où on a des populations qui étaient encore, disons, relativement proches du centre-ville, et avec l'augmentation, l'amélioration de l'habitat, est-ce qu'on n'a pas un phénomène d'éloignement de ces populations qu'on renvoie vers des destinations plus lointaines, plus loin des centres-villes? Et finalement, bon, c'est le truc classique. On renvoie les populations plus loin pour pouvoir venir au centre-ville pour travailler et consomme du gasoil et de l'essence pour se déplacer. Oui. Est-ce qu'on n'a pas là des vrais soucis de ce point de vue?
Je pense que en réalité, le phénomène est même plus simple que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, la spéculation foncière et immobilière n'a pas attendu la rénovation énergétique. Au contraire, je pense que en réalité, on est dans une situation où aujourd'hui la rénovation énergétique en tant que telle est une politique qui est un échec presque total. C'est-à-dire que déjà il y a deux choses. Les bâtiments.
C'est pas très enthousiasmant alors.
Je vais développer. C'est-à-dire bâtiments les plus consommateurs d'énergie sont ceux qui en gros datent d'avant 1974, hein, d'accord, qui sont en réalité à cette année-là en 75.
Avec la crise.
On a les premières lois de diminution d'objectifs de diminution de consommation énergétique.
Première
réglementation thermique, tout à fait. Donc on va avoir un levier d'action sur le neuf et absolument pas sur le parc immobilier ancien, qui aujourd'hui est effectivement, ça là-dessus je vous rejoins, le parc immobilier ancien qui est aujourd'hui le dernier accessible pour les populations renvoyées dans les zones périurbaines, rurales, etc.
Absolument.
Faut pas oublier que les factures énergétiques sont 2,5 fois plus élevées pour les ruraux et les périurbains que pour les urbains. Mais la deuxième chose, c'est que elles ont été inefficaces ces politiques, c'est que c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans la libéralisation, l'idée que le marché va tout régler. Donc on a proposé des éco-prêts au zéro, on a proposé des crédits d'impôt, etc., etc. Ce qu'on constate, c'est que ça a eu un levier extrêmement faible sur la rénovation énergétique, et puis que, y compris, ce sont à nouveau les classes les plus aisées qui ont capté l'argent des prêts à taux zéro, qui ont capté l'argent des crédits d'impôt pour leur rénovation personnelle généralement, et très rarement pour la rénovation de bâtiments avec des locataires, etc. Donc on est là sur des mécanismes qui sont ou inefficaces, ou si on parle de la dernière loi de transition énergétique, même carrément dangereux du point de vue des solutions en matière de transition énergétique.
Sachant que la norme, c'est encore aujourd'hui de mener des politiques plutôt curatives que préventives. Enfin, on est plutôt sur des aides aux factures d'impayés, par exemple, alors que peut-être qu'il faudrait... je sais pas, c'est un point de vue.
Non, mais moi je pense quand même que l'alphabétisation est fondamentale, et de ce point de vue-là, c'est-à-dire la politisation de la consommation, la politisation de tous ces enjeux-là, de faire en sorte. Moi, j'ai des exemples précis de. J'ai pas d'études comme ça dans le détail, mais j'ai des exemples précis de copains qui sont d'enfance, qui font partie du prolétariat entre guillemets, et qui se sont politisés tout seuls là-dessus et ont fait preuve de l'inventivité nécessaire pour faire ce qu'il fallait avec les moyens du genre « Ah ouais, mais machin, il travaille sur le chantier truc, il m'a ramené plein de matériaux comme ça et j'ai fait tout moi-même et voilà, parce que je suis à moitié de la partie, je suis électricien, je connais quelqu'un dans le bâtiment. » Bon, aujourd'hui, il n'y a pas... le problème, un des problèmes, ça résout pas tout, mais pour qu'il y ait une mesure, c'est toujours pareil, pour qu'il y ait une mesure politique qui porte, entre guillemets, il faut qu'il y ait une demande, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que ça réponde à une série de situations qui sont identifiées comme problématiques. Le problème des impayés, la réponse la plus facile, c'est effectivement le curatif, entre guillemets, c'est-à-dire les fonds qui permettent de payer. Voilà. Ça, tout le monde comprend, ça répond à une situation bien identifiée.
Un payé de charges, pour être
voilà,
clair.
Voilà, exactement.
Un payé de charges.
Alors que, de dire que on va isoler, ça paraît tellement, si on se situe pas dans une problématique où il y a le changement climatique, tous ces trucs-là, ça paraît tellement lointain, que ça peut pas être véritablement compris. Donc le lien que font et je dirais les associations du social, les associations écolo, en disant on va se mettre d'accord là-dessus puisque là-dessus on est d'accord. Le problème c'est que c'est loin de la situation des gens. Et donc du coup, c'est pour ça que moi je jette pas la pierre complètement disons à ceux qui parlent de consommation et de petits gestes entre guillemets, parce que c'est un peu comme dire quelque part, c'est un peu comme dire oui mais les syndicats dans les entreprises, quelqu'un qui ne fait que se syndiquer, c'est rien. C'est un petit geste. Ben non, c'est pas un petit geste. Il se politise. Ben là, c'est pareil. On parle de consommation. On sort du schéma, justement, tout cuit, tout consommer. Puis si vous arrivez pas à consommer, on va vous stigmatiser. Mais enfin, on vous donnera quand même une petite obole pour payer vos factures et continuer à travailler et continuer bien dans la société de consommation et tout. Si on arrive quand même à décaler ce discours-là pour aller vers une consommation où, justement, on prend du recul par rapport à ça, on met à distance... Bon, tout ça va plutôt dans le bon sens, voilà, c'est... Et sinon, tant qu'on n'a pas, hein, c'est une logique, en fait, c'est comme l'écotaxe, hein. Je pense qu'on peut prendre un autre exemple aussi qui est le truc qui marche pas, c'est l'écotaxe. Et pourquoi ça marche pas l'écotaxe? Parce que c'est un truc abstrait. C'est-à-dire que c'est des économistes, hein. Les économistes, ils pensent en permis ou en taxes. Alors, pendant longtemps, les permis, c'était du côté libéral, les taxes, c'était du côté anti-libéral. En fait, les deux, moi, ça fait longtemps que je pensais complètement inefficace tous les deux. Tout simplement parce que l'écotaxe, elle vise un truc qui s'appelle le carbone, qui n'a aucune existence sociale, imaginaire. C'est une construction des climatologues que les gens ne se sont pas appropriés. Donc, à partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on taxe. Il faut qu'il y ait un sens politique aux mesures. L'écotaxe, elle n'a pas de sens politique. Elle n'est pas comprise par les gens. Donc, on met un taux trop faible d'écotaxe, ça n'a aucun effet sur le climat. On monte un tout petit peu, il y a une catégorie socio-professionnelle qui est affectée de manière disproportionnée. Mmh. Et c'est bien normal, d'une certaine manière.
Mathieu, peut-être...
Oui, moi, je loin de moi l'idée de condamner les actions individuelles. Simplement, je pense que il serait bien plus efficace.
C'est pas les actions, hein. C'est
ouais,
c'est
mais
le
c'est
fait
quand même
de
c'est-à-dire que par exemple, pour reprendre
les modes de vie,
l'exemple, mais ça, j'entends très bien. Et ça, je pense que là-dessus, t'as
c'est pas
entièrement
actions, parce que sinon,
t'as entièrement raison.
Actions,
là-dessus, je suis totalement d'accord,
hein.
Totalement d'accord avec toi. Mais politisons là jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'écotaxe, elle échoue aussi parce que le gouvernement a plié face à un lobby patronal. Ça ne veut pas dire que l'écotaxe était bien, c'était un partenariat public-privé. Je pense par ailleurs qu'elle était mal fichue et que elle n'avait pas vocation vraiment à financer une alternative et une transition. Donc c'est pas tant l'écotaxe en tant que telle, mais je pense qu'elle a aussi échoué parce qu'il y avait un lobby patronal. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en réalité, au-delà des actions individuelles, je pense que la part de la responsabilité collective de notre capacité à nous organiser souverainement en tant que citoyens pour organiser la transition écologique et énergétique est absolument déterminante. C'est-à-dire que pourquoi on a des impayés, on en parlait tout à l'heure, en matière d'électricité et autres, parce que on a une libéralisation du système, du marché de l'énergie qui a amené 5% d'augmentation du tarif de l'électricité en 2013, 2,5% en 2014, je crois, 3% en 2012, etc., etc. C'est le cas sur tous les marchés libéralisés. Accès à l'eau, accès à l'énergie, etc., etc. Donc on est là face à la responsabilité, de mon point de vue, d'un système qui organise la rareté, qui organise les pollutions, qui organise un système effectivement dépolitisant, puisqu'il y a une part de domination culturelle liée à la consommation qui est extrêmement importante. Et de ce point de vue-là, par exemple, la loi de transition énergétique est une catastrophe absolue. Est une catastrophe absolue. Elle accélère la privatisation où les derniers lieux où la production énergétique était encore publique, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques, sont privatisés. On peut parler de la loi Macron qu'on connaît beaucoup sous l'aspect social, mais qui est une loi à la fois dans son contenu et dans sa philosophie totalement. C'est vrai. Voilà. Discussion rapide bientôt. Qui j'espère échouera, mais qui dans sa philosophie comme dans son contenu est totalement anti-écologique en plus d'être antisocial. Hein. Elle met en concurrence, rendez-vous compte, les trains avec la libéralisation des autocars. La loi Macron, c'est vraiment les trains pour les riches, les cars pour les pauvres. Ça, c'est une réalité concrète de la loi Macron. Au-delà du fait que, évidemment, c'est une posture idéologique loi de croissance, de loi de consumériste, ouvrir le travail du dimanche, est-ce qu'on va aller dépenser de l'argent le dimanche que nous n'avons déjà plus le jeudi, voire même le 10 du mois, hein. Enfin, voilà, on est dans cette situation qui est totalement absurde.
Alors, peut-être en profiter pour faire la transition avec la dernière partie de l'émission, parce que l'heure tourne malheureusement. Des échecs, quelles sont pour vous les solutions? En gros, une question, comment définit-on aujourd'hui une politique social écologique.
Oui, parce que le constat est assez, enfin le constat que vous faites l'un et l'autre, là vous avez quelques débats qui sont tout à fait intéressants, hein, qui traversent complètement le mouvement social. Hein, on voit bien, hein, c'est des débats qui sont assez transverses. Mais au moins vous êtes d'accord sur une chose, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment trouvé de solution qui soit efficace. Alors,
on souhaiterait terminer sur une note positive.
Oui, voilà. C'est ça. L'idée, c'est peut-être qu'on peut aussi essayer de terminer sur une note un peu plus positive. En tous les cas, une porteuse d'espoir. Est-ce que là-dessus, tu veux commencer?
Moi, j'ai pas de programme.
Pas de clé en main. On s'en doute bien. On se doute bien qu'on n'a pas de position clé en main.
Non, mais c'est ma partie principale.
Oui, c'est vrai. Mais si on reprend. Bah, oui, mais on peut traduire de tes propos. Peut-être déjà quelques pistes, c'est-à-dire que bon.
Ce qu'on peut voir, me semble-t-il, c'est qu'il y a quand même quelques signes d'espoir depuis, 4-5 ans quelque part. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les mobilisations autour de l'écologie, bon, enfin, c'est tout le monde est d'accord pour dire que ça s'intensifie, et ça s'intensifie au nord comme au sud. Et c'est pas simplement chez nous, c'est partout. Parce que maintenant, il y a un certain nombre d'enjeux, disons, systémiques, comme le climat, qui deviennent évidents. Pendant longtemps, ouais, on ne sait pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et tout.
Maintenant, c'est derrière nous.
Bon, voilà, maintenant, tout le monde est d'accord. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas encore, mais enfin, la majorité est de ce côté-là. Alors, ce n'est pas parce que ce combat-là est gagné que le combat pour les solutions est gagné. Mais néanmoins, il y a ça. On voit aussi du côté de certains pays, l'Espagne ou la Grèce, un certain espoir, avec des partis qui secouent les puces des partis établis, qui s'appuient sur des mouvements populaires importants. Et alors c'est lié aussi à une crise profonde qui a permis de rebattre les cartes. Hein. C'est-à-dire qu'en France, malheureusement, d'une certaine manière, tout va bien. Par rapport à ces pays-là, on est tranquille, il y a un peu plus d'SDF dans les rues, mais enfin, c'est loin d'être ce qui se passe en Espagne et en Grèce. Donc les moments de crise, c'est aussi les moments de reconfiguration très profonds, où on sort un petit peu de ces postures habituelles, de ces petits débats. Enfin, on a vu avec les attentats, là, c'est un peu pareil. Chacun a arrêté de répéter la même chose qu'il répétait depuis des années pour se décaler un petit peu et se dire, ah oui, ma position, c'est une position où, au milieu de plein d'autres, il faut peut-être réinterpréter l'ensemble. Bon, je pense que dans le domaine de l'écologie, on va vers des situations de ce type-là où des convergences vont se produire. Parce que c'est une histoire d'accommodement mutuel entre les partis politiques et la population. La population attend évidemment des choses des partis politiques, puisque ce sont eux qui votent les lois, mais en même temps les lois, c'est des lois générales, donc qui correspondent à une généralité de situation. Si les situations ne sont pas généralisables à la base, et c'est le gros problème du bâtiment, c'est ça, c'est qu'il y a autant de solutions qu'il y a de bâtiments, donc du coup il y a un problème de généralisation, ça nécessite un effort de conceptualisation qui est tout à fait possible. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui c'est assez marginal, ce genre de dans le débat public, mais c'est tout à fait possible qu'on arrive à des, disons, à une intelligibilité collective. Moi, je pense que c'est vraiment la clé de tout, d'une certaine manière, et depuis toujours, une intelligibilité populaire de tous ces enjeux-là, donc priorité à l'éducation populaire. On le voit un petit peu du côté de Syriza et du côté de Podemos, c'est quand même des enjeux qui sont pas absents. On voit que ça pénètre un petit peu partout. Autant la situation est grave, autant les signes d'espoir sont quand même là. Enfin, moi, je pense qu'on est d'une certaine manière sur la bonne pente. Après, est-ce qu'on va assez vite? Ça, c'est aussi la question qui se pose toujours. C'est de dire, ouais, c'est bien, d'accord, mais enfin, on est déjà à un degré. Bon, c'est vrai qu'on va pas assez vite. Maintenant, faut pas désespérer de l'histoire non plus. Je crois pas que l'histoire avance de manière linéaire. Il y a des effets de seuil. Bon, avant, on appelait ça des révolutions. Bon, moi, je parle d'effets de seuil, mettons. Il est tout à fait possible qu'il y ait un effet de seuil. Bon, pourquoi il n'y en aurait pas? Ça peut être un truc anodin. Comment ça s'est produit, tous ces Syriza, Podemos et tout, des petites choses, pas des grosses choses. Et puis tout d'un coup, ça prend parce que les gens sont... Voilà, on le sait pas. Et en fait, la population est bien plus avancée dans sa tête que ce qu'on pensait. Il y a quelque chose qui fait que ça devient public. Et le fait que ça devienne public, ça déclenche quelque chose de masse. Bon,
Mathieu, c'est un petit peu la même idée que tu dégagerais, que cette, ce sentiment un petit peu de prise en compte des questions écologiques dans le débat social, on voit qu'il existe dans le débat politique.
Oui, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que autant on disait que les populations les plus précaires sont les premières touchées, autant je pense que combattre les crises écologiques, les crises environnementales à la racine, c'est-à-dire balayer le système actuel, sont des moyens de desserrer l'étau immédiat des inégalités. Donc, d'abord, l'idée que je partage, qu'il y a... Il faut un projet, il faut arrêter, je pense qu'on n'en est plus, projet de société, c'est-à-dire qu'on n'en est plus à chacun vend sa sauce politique, regardez mon programme, etc., et accord politicien. Je pense que cette période de l'histoire-là est quasi révolue ou est en train de se terminer. Ce qu'il nous faut, c'est un projet de société. Alors évidemment, moi, je représente le parti de gauche, nous on essaye d'en penser un avec notre humilité, voilà, mais l'idée est celui du bien vivre. Du buen vivir, disent les latino-américains, du vivre bien, c'est l'idée qu'il y a des besoins fondamentaux et que ces besoins fondamentaux, ils doivent être communs, publics, communs. Après, chacun pose les pierres là où il a envie, mais que manger, boire, pouvoir se déplacer, avoir accès à l'énergie, etc., sont
l'accès
des éléments
au bien commun.
Totalement fondamentaux. C'est ça, c'est l'accès au bien commun. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on est aussi dans le concret, dans le réel, et c'est ce que j'appellerais la partie résistance. Moi, on est en 2015, on a le sommet sur le climat au Bourget à Paris, où Hollande a déjà expliqué et commence déjà à expliquer comment et de quelle manière est-ce qu'il va capituler en vue d'un accord ambitieux et contraignant sur le climat. En revanche, la société civile se mobilise, citoyens, associatifs, collectifs, partis politiques et autres. On a le beau mouvement d'Alternatiba ici en France, et j'espère bien que suite à Lima et en 2015 en France, on aura un mouvement social climatique qui puisse émerger. En tout cas, nombreux sont ceux qui travaillent au quotidien, et je les salue là. Mais on a aussi d'autres zones d'espoir, hein, dans la lutte contre les grands projets inutiles et imposés. Sur le barrage du Testet, après le drame de la mort de Rémi Fraisse, on a quand même des premiers reculs, et ça, c'est des vraies victoires. Ça veut dire que lorsque les citoyens sont mobilisés, il y a des capacités à faire reculer le gouvernement et les politiques anti-écologiques. Et il faut, à mon sens, impérativement réconcilier, alors on le dit chacun avec nos mots, mais réconcilier le monde de l'entreprise, le monde du travail, avec la question écologique, la question environnementale. Je le dis souvent de façon un peu provocatrice, mais je pense qu'il y a un préalable dans cette convergence et cette réconciliation, c'est de défendre les travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité. Même si c'est une usine automobile qui ferme et que dans notre idéal, on se dit qu'il faudrait moins de voitures. Je pense que la question n'est pas là. C'est qu'on ne peut pas demander à un travailleur qui connaît son outil de production, quel serait un outil de production éco-socialiste, puisque c'est par exemple mon projet, plusieurs mois ou plusieurs années après notre arrivée au pouvoir, alors que lui-même ne sait pas ce que sera son outil de production à la fin de la semaine, à la fin du mois, etc., etc.
Ça, nous, c'est ce que j'appelle la logique de situation, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, il ne faut pas prendre les déclarations des syndicats au pied de la lettre en se disant ils sont pour l'auto, donc ils sont productivistes. Et ces déclarations sont à remettre dans une situation. Ils sont effectivement dans une situation, comme tu disais, d'urgence. Ces urgences conduisent à faire des ils n'ont pas une marge de manœuvre infinie, c'est pas comme si le patronat n'existait pas. Donc il y a une marge de manœuvre qui est limitée, et les revendications sont fonction de cette marge de manœuvre limitée. Donc les autres mouvements sociaux, notamment écolos, doivent comprendre ça et doivent situer et comprendre que leurs propres revendications doivent être aussi lues par rapport à une situation. Et je pense que c'est un peu ça la difficulté, c'est de sortir de son truc immédiat pour comprendre que l'autre, là où il est, il a une action finalement est convergente.
Et c'est là-dessus que les mouvements sociaux, politiques et autres ont un intérêt à venir travailler avec les travailleurs en résistance. Moi, je le vois. Je voulais juste le dire ce soir. On a au Lila là des camarades qui luttent contre la fermeture de leur entreprise, qui est une blanchisserie industrielle. D'accord. Donc on n'est pas là comme ça. Les écolos pourraient regarder ça de façon condescendante, etc. Mais en réalité, on voit que dans la discussion commence déjà à émerger quelles solutions coopératives est-ce que nous pourrions trouver, mais qu'en réalité là ils sont pris dans l'immédiateté du danger de la fermeture de leur site et de de la nécessité de mobilisation immédiate dont ils ont besoin et d'appui immédiat dont ils ont besoin de la part de, en réalité, les.
Mais on voit apparaître dans le mouvement syndical déjà cette convergence, elle apparaît dans le mouvement syndical. Elle peut apparaître, on voit qu'elle apparaît. En tous les cas, elle, c'est une question qui se pose au mouvement politique. Est-ce qu'elle se pose au mouvement syndical?
Moi, je suis d'accord avec Fabrice, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de raccourci dans l'histoire. Et on voit que sous l'influence des associations écologistes, de certains partis politiques, etc., que les débats sont largement en train de naître dans les syndicats. La question du nucléaire est un bon indicateur. Un certain nombre de syndicats se sont déjà, d'ores et déjà, déclarés pour la sortie du nucléaire. Je pense que ce sont des premiers marqueurs, des premières victoires. Je pense à la FSU, je pense à Solidaire. Je sais que ce sont des débats qui traversent très largement la CGT. Et moi, je regarde ça, bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je regarde ça sans dogmatisme et sans jugement moral. C'est-à-dire que il n'y a pas de raccourci dans l'histoire. Et tout ça est une question de mobilisation. Mais sur les grands projets inutiles imposés, c'est pareil. Les derniers textes de congrès d'un certain nombre d'organisations syndicales sont de ce point de vue extrêmement positives.
Alors, malheureusement, l'heure tourne. Est-ce que vous. Peut-être un dernier message chacun.
Alors moi, je voulais faire un petit peu de pub pour la revue Mouvement qui a fait un numéro sur syndicalisme et environnement.
Excellent.
Donc, qui traite exactement de ce sujet-là. Et on a notamment une table ronde avec Bernard Saint-Cy qui était responsable de développement durable à la CGT. On a un entretien avec Annick Coupé, donc de Solidaire, et un certain nombre de témoignages, enfin d'expériences de mobilisation syndicale qui peuvent aller dans le sens de l'environnement.
Revenons-moi avec qui la Fondation Copernic a des trois liens. Donc c'est une bonne publicité en l'occurrence. Très bien. Bah écoutez, oui, un dernier petit mot aussi.
Dernier mot d'espoir ce week-end. Je pense que la Grèce, et j'espère bien que la Grèce va rompre la chaîne de l'austérité en Europe. On les attend avec beaucoup de ferveur et d'espoir.
Absolument.
J'en profite aussi. Pour une fois, n'est pas coutume.
Il y a une chaîne humaine à la bourse dimanche, je crois. Non, on peut peut-être le dire en deux mots. Non, c'est pas dimanche. Il y a une chaîne humaine, en tout cas, ce week-end, je suis sûr.
Une chaîne humaine à la bourse, oui, tout à fait.
C'est à la bourse, mais c'est quand?
Dimanche après-midi,
voilà.
Une fois n'est pas coutume, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Mathieu tout à l'heure sur cette mobilisation citoyenne et en parlant d'Alternativa. C'est un très beau projet. L'idée, c'est de proposer des alternatives citoyennes sur le climat, de préparer un avant-sommet en amont de la conférence internationale qui aura lieu à Paris. C'est un collectif qui a besoin de gens encore pour préparer cet événement. Donc je profite de ce temps de radio pour lancer un appel à bénévolat et rejoindre le collectif Alternativa. Il en existe un en Ile-de-France notamment.
Merci bien donc cette émission et puis on retrouvera l'émission de la Fondation Copernic dans un mois maintenant, le vendredi 27 février. Alors là on aura un sujet finalement qui est à la fois différent et peut-être relativement proche puisqu'on parlera de désindustrialisation en France. Donc vous voyez bien on est un peu encore quelque part dans la continuité. Merci et au revoir.